CIMEA, la règle, je ne sais pas si c'est la même sur toutes les écoles doctorales, notamment en sciences humaines. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait les mêmes règles, même si en gros, c'est à peu près la même chose. Donc, dans les formations, vous avez trois types de formations. Donc, je précise, hein, CIMEA, trois types de formations obligatoires. Formation thématique, vous en avez une ici. Vous devez en faire une deuxième, et le tout est comptabilisé pour une trentaine d'heures. Vous avez aussi les formations de spécialité, dans votre spécialité à vous. Et en général, c'est les cours de Master 2 ou des cours spécifiques doctorat. Et aussi, vous devez avoir 30 heures de formation, mais on accepte aussi d'autres types de formations, du type congrès. Si vous assistez à un congrès, c'est comptabilisé comme une formation. Si vous assistez à un séminaire dans votre laboratoire avec des personnes étrangères au laboratoire, extérieures au laboratoire, c'est aussi comptabilisé comme une formation. Donc vous avez quand même le choix pour valider vos formations de spécialité. Et vous avez aussi les formations transversales qui sont organisées en général par le collège de l'école doctorale sur le site de Poitiers. Et donc vous avez aussi 30 heures à justifier de formations transversales. Bon, voilà, le premier intervenant arrive, donc je vais pouvoir parler un petit peu de la formation. Bonjour.
Bonjour.
Donc précisément sur celle-ci là, la formation thématique sur l'énergie, le transport et l'habitat, c'est une formation transformation. C'est une formation qui va se dérouler sur 2 jours. Il y a trois matinées, trois demi-journées pleines et une dernière petite demi-journée mercredi après-midi de 2 heures environ pour la dernière partie de la formation. La première partie, c'est sur l'énergie. On a en général trois intervenants par matinée, par demi-journée. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, bon, il y a une personne qui ne peut pas venir, donc on aura deux intervenants, mais qui vont avoir une présentation un petit peu plus longue. La deuxième partie cet après-midi, c'est sur le transport. La troisième partie demain matin, c'est sur l'habitat. Et l'après-midi, c'est une conférence sur les cycles de vie. Et on terminera sur un débat sur l'ensemble de la conférence, de la formation. Alors, les choses qu'il faut savoir, vous devez tous émarger. Non pas en début de formation et puis c'est terminé, c'est chaque demi-journée vous émargez. Alors ça peut être tout à fait au début de la formation, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, ça dépendra de la disponibilité de la secrétaire, Madame Fofana, qui est là. Pour ceux qui viennent de l'extérieur et qui ont des choses à se faire rembourser, des billets de train ou des missions s'ils viennent en voiture, vous voyez avec Madame Fofana qui est ici, c'est celle qui vous a fait signer, pour les remboursements, pour donner toutes les pièces justificatives. Et aussi, une autre chose, on va vous distribuer à la fin de chaque demi-journée. On va vous distribuer une feuille de satisfaction ou d'insatisfaction. Vous aurez deux questions sur lesquelles il faudra répondre et dire est-ce que ce qu'on vous a présenté correspond à ce que vous attendiez? Et sinon, qu'est-ce que vous auriez voulu voir comme contenu? On parle en termes de contenu, évidemment. Il y a quelque chose. Le repas se passe en face. Vous verrez, c'est très simple. C'est à Roche d'Argent, c'est un restaurant universitaire qui est en face. Pour ceux qui dorment ici ce soir, c'est aussi en face, dans les mêmes bâtiments. Donc, ça ne sera pas très compliqué pour cela. Il y a une chose importante, c'est ce soir. Ce soir, il y a un repas qui est prévu au Cappuccino. On vous a demandé, est-ce que vous voulez participer à ce repas? Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi ne pas y aller, hein. On a enregistré un certain nombre de personnes qui ont dit oui, on va participer à ce repas. Venez, parce que on s'est engagé, nous, vis-à-vis du restaurant, pour un certain nombre de personnes. Et de toute façon, on paiera pour le nombre de personnes sur lesquelles on s'est engagé. Que vous veniez ou que vous ne veniez pas. Si vous ne venez pas, on ne va pas vous demander de rembourser. Mais enfin, ce n'est pas très correct, quoi, hein. Donc, on a prévu une petite marge si d'autres veulent se joindre. ont changé d'avis et veulent venir au cappuccino, ils peuvent venir. Il faut le dire à Madame Fofana et on verra jusqu'à combien on peut en prendre pour ce soir. Donc, ça serait bien, oui, ça serait bien que vous confirmiez à Madame Fofana que vous allez bien venir ce soir, qu'on fasse le bilan des personnes qui seront là. Je dis ça parce que l'an dernier, il y a eu un petit bug. Il y avait un repas qui était prévu et je n'avais pas réalisé que finalement, les personnes qui sont sur Poitiers, ce n'est pas quelque chose qui obligatoirement les intéresse. Ceux qui sont à l'extérieur, bon, bah, de toute façon, il faut qu'ils mangent quelque part. Donc, ceux de Limoges et La Rochelle, que ce soit dans un restaurant et c'est gratuit, en général, la question ne se pose pas. Mais pour ceux qui étaient de Poitiers, bon, c'était pas. Alors que moi, je pensais que ça aurait pu les intéresser, c'était pas nécessairement. Ça ne les a pas intéressés nécessairement. Donc, on s'est retrouvés à 30 au lieu de 70 dans un restaurant. Bon, voilà. Pour éviter ce bug-là. Donc. Signalez, dites bien si vous venez ce soir ou pas au cappuccino. Autrement, ben, je pense qu'on peut remercier quand même l'espace Mendès France, qui vous voulez peut-être dire un petit mot, pour nous accueillir, hein, d'organiser aussi avec Patrick Matagne, qui est ici sur la première, voilà, qui a préparé cette formation. Et je vais laisser la. C'est la deuxième, oui, l'an dernier, il y en avait une qui n'était pas tout à fait la même. Bon, l'année prochaine, il n'y aura pas une troisième. Hein, ça sera bon, non, pas tous les ans.
Voilà, merci, Monsieur Roma. Donc, je voulais d'abord remercier l'école doctorale Sciences et Ingénierie en matériaux mécaniques, énergétiques et aéronautiques, numéro 522, de nous permettre d'organiser ces journées. En fait, les journées que nous organisons depuis 2 ans correspondent aussi... à ce qui se déroule dans notre centre de culture scientifique, c'est-à-dire permettre à un public large d'avoir des conférences transdisciplinaires ou interdisciplinaires. Donc on nous a commandé depuis l'année dernière une thématique sur l'énergie, le transport et le développement durable en partenariat donc avec l'école doctorale et avec... dans notre comité scientifique, Patrick Matagne, qui est historien des sciences, que vous entendrez tout à l'heure. Donc c'est toujours un plaisir d'organiser ça, parce que ça nous permet aussi de chercher des personnes susceptibles d'intervenir dans ce cadre. Et bien entendu, quand les personnes sont très bien, on récidive. Ça va être le cas avec M. Papon, qui doit être venu 4 fois chez nous en 2 ans. Donc chaque fois qu'il y a des conférences sur l'énergie, nous l'invitons. Et donc j'espère que vous allez trouver du plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé avec Hubert Roma et Patrick Matagne. Et en fait, quand on a travaillé, on a pensé à vous. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui les intéresserait? Et voilà, donc je vous souhaite 2 bonnes journées chez nous. On est enfermé dans une salle, il fait un peu chaud, mais bon, on aura aussi quelques petites pauses. Et puis vous verrez, ça passera très vite. Ce qui est intéressant aussi pour ce qui concerne ces sujets, qui sont quelquefois des sujets d'actualité, bien entendu, qui sont un peu galvaudés, comme vous le savez, dans les médias, c'est de pouvoir débattre avec des gens qui sont des personnes ressources et des experts. Des experts, ça fait toujours un peu peur, mais un jour, vous serez aussi des experts. Et ce sont des experts qui pensent vraiment les sujets qu'ils abordent. Ce ne sont pas seulement des experts scientifiques dans le sens où ils ne parlent pas que de la science, ils parlent aussi des problèmes sociétaux. Et c'est ce que nous intéressait à faire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vais présenter M. Papon, même si on le connaît bien dans la maison. Vous m'avez donné un texte et comme j'ai toujours peur de dire des bêtises, je préfère vous présenter comme il se doit. Donc vous êtes physicien, professeur émérite à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. Vous avez été directeur général du CNRS et PDG de l'IFREMER. Vous êtes président d'honneur de l'OST, Observatoire des sciences et des techniques. Et vous présidez le conseil d'administration de la Fondation des maisons de sciences de l'homme de Paris. Vous voyez, quelqu'un qui fait de la science dure et qui en même temps fait des sciences de l'homme. C'est très très intéressant. Donc les derniers ouvrages publiés, c'est « Énergie, la science peut-elle changer la donne ?» les éditions du Pommier en 2012, une version pour enfants, il y a aussi une version pour enfants qui s'appelle « Plein d'énergie ». Ça ne m'étonne pas de vous, cher monsieur. Et puis « Bref récit du futur » aux éditions Albin Michel en 2012. Donc nous vous écoutons, c'est vraiment un sujet d'actualité. On se demande si on va arriver à la faire, cette fameuse transition énergétique vu le contexte politique, mais bon, on va y réfléchir aujourd'hui. Donc, vers une transition énergétique, des ruptures scientifiques et techniques sont-elles possibles? Merci, Monsieur Papon.
Je peux prendre ce micro-là. Merci encore à l'Université de Poitiers, au Centre de culture scientifique permanent de France, de m'avoir réinvité cette année. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Poitiers, même si aujourd'hui, le temps, j'entends la météo, n'est pas très favorable. Alors, je vais aujourd'hui, s'agissant de transition énergétique, tâcher de répondre à la question, je ne pourrais y répondre que de façon incomplète, à la question suivante. Est-ce que, pour favoriser cette transition, des ruptures scientifiques et techniques sont possibles et dans quel délai? Bon, je dirais ce que j'entends par rupture scientifique et technique. Alors, voici le plan de ma conférence que je vais essayer de rendre le moins académique possible. Une introduction que je pensais être très très brève, historique, parce que ma collègue historienne devait me précéder, donc je vais allonger un petit peu cette introduction, sans me substituer à elle, hein, parce que moi je ne suis pas historien. Où en sommes-nous s'agissant de consommation d'énergie dans le monde, en France, etc. Un coup d'œil très rapide. Quelles sont les contraintes de la transition? Qu'est-ce qu'on peut envisager comme scénario? Et puis, le fond du sujet, est-ce que des ruptures scientifiques, techniques sont possibles, hein? Bien sûr, je dirais ce que j'entends par rupture, peut-être un peu plus longuement, parce que je pense que ma collègue historienne en aurait parlé, puis quelques conclusions rapides. Alors, on parle en France depuis quelques temps d'énergie, de transition énergétique. Il y a eu un débat l'an dernier, en 2013, sur la transition énergétique, dont les conclusions doivent être gravé en quelque sorte dans les tables de la loi, une loi sur l'énergie qui sera présentée au Parlement, je pense, à la rentrée prochaine, hein, donc septembre-octobre 2014. Donc c'est un sujet d'actualité, mais en fait, sans remonter à très loin, et à la préhistoire, l'énergie a une dimension politique depuis à peu près un siècle. Depuis à peu près un siècle. Alors, vous avez sans doute entendu à la radio, ou à la télévision, ou à la presse, que cette année, c'est le 100e anniversaire du déclenchement de la guerre de 14, hein, en août 14. Et c'est en fait la guerre de 14, première guerre mondiale, qui a, je dirais, non pas déclenché les réflexions sur l'énergie, mais fait de l'énergie un problème politique et quasiment à dimension mondiale. Pourquoi ? Bien, la guerre de 14, on ne l'a pas encore beaucoup dit, mais peut-être qu'un certain nombre d'historiens le diront. C'est la première guerre mécanisée, ça on l'a dit, avec des automobiles, les fameux taxis de la Marne, ceux qui ont des souvenirs d'histoire s'en souviennent peut-être, des camions, les tanks, les avions. Et tout ça avait besoin d'énergie, de kérosène pour les avions, d'essence, de gazole, etc. Et c'était une préoccupation, ça a été une préoccupation majeure pour tous les belligérants, en particulier de la France, qui n'avait pas, je dirais, de pétrole dans son sous-sol pour alimenter, je dirais, ses moyens mécaniques. Et ça, ça a été un problème. Un problème assez angoissant pour la France, qui, en 1917, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne, a lancé un appel aux États-Unis qui, eux, exploitaient le pétrole, « Envoyez-nous du pétrole ». Clémenceau, qui était à l'époque le président du Conseil, a envoyé un télégramme à Wilson, je cite à peu près, « Envoyez-nous du pétrole ou de l'essence, qui est aussi précieuse, disait-il, que le sang de nos soldats pour la victoire finale, patati et patata ». Bon, les Américains ont répondu présent, envoyé des tankers, hein, pour alimenter les camions, les tanks et les avions des alliés en Europe. Les Allemands avaient le même problème. Bon. Alors, traumatisés par cette affaire, les gouvernements français, après la guerre, ont pris un certain nombre de mesures. 1924, création d'une compagnie française des pétroles, CFP, qui est l'ancêtre du Total d'aujourd'hui, et qui a reçu, je dirais, les dépouilles de l'Empire ottoman, de la Turquie, dans les dépouilles de l'Empire ottoman, des actions sur les pétroles d'Irak, puisque les Turcs avaient commencé à exploiter le pétrole d'Irak. Bon, je vais vite. Création, Seconde Guerre mondiale, énergie atomique, hein, j'en reparlerai tout à l'heure. Création du commissariat à l'énergie atomique en octobre, en France, en octobre 1945, hein, quelques semaines après Hiroshima, après la guerre 1945-46, EDF, charbonnage de France, etc., parce qu'il fallait de l'énergie pour reconstruire le pays. C'était un problème majeur. Les Allemands avaient le même problème, et les Japonais aussi, évidemment. Bon, je vais vite. 1973, programme nucléaire français avec construction de centrales nucléaires. C'est le premier choc pétrolier. Là encore, on se réveille et dit, ah oui, bon, ben, on a besoin de pétrole, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et puis, j'en arrive à aujourd'hui, hein, je vais vite, s'agissant d'histoire, 2014, on a des nouvelles contraintes qui sont mondiales, comme l'était un petit peu en 14, mais là, c'est mondial pour différentes raisons que je vais expliciter dans un instant. Bon, alors, où en sommes-nous d'abord? Où en sommes-nous s'agissant de la consommation d'énergie dans le monde et puis en France? Ce qu'on appelle l'énergie primaire. L'énergie primaire, c'est tout ce qu'on reçoit dans notre panier énergétique avant de le transformer. Du pétrole avant de le passer dans une raffinerie pour fabriquer de l'essence, du gazole, etc. Bon, ce qu'on appelle l'énergie primaire. Je représente ça par une pompe à gazole qui date des années 50, 55. Évidemment, vous n'avez pas connu ça. Enfin, peut-être certains d'entre nous. Moi, j'ai un vague souvenir. Bon, bref. Ça symbolise l'énergie mondiale ou française. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pompe à énergie? Il n'y a pas que du pétrole, mais on prend pour habitude de convertir toute énergie en équivalent pétrole. Si vous brûliez, ce que pour moi, vous ne ferez jamais une tonne de charbon dans une chaudière, vous ne dégagerez que 70% de la chaleur que dégagerait une tonne de pétrole. Donc on dit une tonne de charbon, enfin du bon charbon, est équivalent à 0,7 tonnes de pétrole, TEP, tonne équivalent pétrole. Alors il y a des unités complètement baroques en énergie, complètement baroques, hein, les tonnes équivalent pétrole. Je vois maintenant que dans les publications internationales, y compris les agences qui traitent d'énergie, elles utilisent enfin le joule. Enfin le joule. Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la pompe à énergie? Il y a du vrai pétrole pour 32%, disons un tiers. Hein. Il y a du charbon pour 27%. Et la proportion de charbon remonte dans la consommation d'énergie mondiale. Hein. C'est un peu paradoxal, mais remonte parce que le charbon est moins cher que le pétrole. Bon. Il y a du gaz pour 21%, hein, du gaz naturel. De la biomasse, c'est-à-dire du bois, des déchets végétaux, environ 10%. Ensuite, du nucléaire, 5-6%. J'ai arrondi de façon à ce que ça fasse 100% et qu'on ne me dise pas « oui, mais ça fait 98%. Hein. » Bon. Donc, j'ai arrondi, j'ai triché. De l'hydraulique pour 3%. Si vous faites la somme, pétrole, charbon plus gaz, enfin, pétrole plus charbon plus gaz, 80%. En gros, 80% de l'énergie mondiale, appelée primaire, ce sont des énergies fossiles non renouvelables. Et ce chiffre varie très peu depuis une vingtaine d'années. Il baisse légèrement, mais ça fait partie, je dirais, du problème. En France, qu'est-ce qu'on consomme? Énergie finale, c'est-à-dire une fois le pétrole transformé en essence, etc., etc. Un quart d'électricité, 24%, dont 75% de cette électricité est d'origine nucléaire. Hein, je vais y revenir. Des produits pétroliers, c'est-à-dire de l'essence, du gazole, du kérosène, etc., 42%. Du gaz naturel que représente ce tuyau, là, probablement en Sibérie, bon, 23%. Et puis, il y a un reste charbon, du bois, des déchets végétaux pour 11%. Donc, on voit que les combustibles fossiles non renouvelables, ça fait encore à peu près, si on met un peu de charbon là-dedans, ça fait les deux tiers, hein, de notre consommation finale d'énergie. Où est-ce qu'elle est consommée, cette énergie? Dans l'industrie, pour un quart, 25%, je mets là-dedans l'agriculture pour 2%, c'est le gazole des tracteurs, hein. Dans les transports, 32%, c'est à peu près le tiers, quoi. Et puis, les bâtiments, j'aurais dû mettre les bâtiments, hein, que symbolisent ces maisons, enfin, ces immeubles en construction, 43%. Alors, les bâtiments, ce sont nos maisons, nos appartements, les bureaux, des centres comme celui-ci qu'il faut chauffer, éclairer, etc. Hein. Et c'est un poste très important qui est pratiquement le même dans tous les pays développés, à climat équivalent. Un climat équivalent. Bon. Et c'est un poste sur lequel j'en parlerai pas, mais on peut faire beaucoup d'économies avec les techniques actuelles. Alors maintenant, j'en viens à la transition énergétique. Bon, je vais simplifier un peu les choses. S'agissant d'énergie, on est soumis, le « on » étant l'ensemble des pays de la planète, à deux contraintes. Je dis que je simplifie parce qu'il y en a d'autres. Première contrainte, le défi climatique, hein, qu'illustre cette photo relativement récente, hein, d'une centrale thermique en Pologne. Vous voyez, au premier plan, on ne voit pas très bien, on voit des petites... ça a l'air d'être des fourmis. Mais c'est une mine de charbon à ciel ouvert, probablement de la lignite, qui est transportée immédiatement à la centrale thermique qui est derrière, qui fabrique le courant électrique. À peu près 90% du courant électrique polonais est produit par du charbon. Bon. Cette centrale, on le voit... On voit des fumées dans l'atmosphère avec du gaz carbonique dedans. C'est le résultat de la combustion. Et les climatologues nous disent, et ils ont encore renouvelé, je dirais, leur diagnostic il y a quelques semaines, enfin depuis le mois de septembre jusqu'à le mois de mars, hein, sur leur rapport. La dernière version de leur rapport fait environ une partie, fait 1600 pages, que je n'ai pas lu, mais le résumé exécutif, ce qu'ils appellent, il doit faire quand même une centaine de pages. Hein, et il y a trois briques comme ça. Bon, donc ils disent, mais ce n'est pas mon propos, ce gaz carbonique qui se stocke dans l'atmosphère renforce l'effet de serre, c'est-à-dire l'absorption par l'atmosphère terrestre du rayonnement infrarouge réémis par la Terre, qui est absorbé par le gaz carbonique, la vapeur d'eau et des tas de choses. Et au rythme actuel, on risque un réchauffement climatique, c'est-à-dire une augmentation de la température moyenne de l'atmosphère de la Terre, dans une fourchette de 2 à 6 degrés entre les débuts de l'âge industriel, 1800, et la fin de ce siècle. Pourquoi 2 à 6 degrés ? Ben, on ne sait pas quelle quantité de gaz carbonique on va envoyer dans l'atmosphère, même si on dit on va le restreindre. Et puis, il y a quelques incertitudes sur les modèles climatiques. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Le rôle des aérosols, par exemple, dans l'atmosphère, ça s'est traité dans les derniers rapports des groupes d'experts sur le climat. Donc, il y a une incertitude. Depuis 1800, on a déjà à peu près 1,3, 1,4 degrés de réchauffement. Donc, jusqu'à 2 degrés, il n'y a plus beaucoup de marge. D'où un débat mondial depuis des années déjà, avec une étape à Copenhague en 2009, où les chefs d'État de tous les pays de la planète se sont réunis, ont dit on limite à 2 degrés de réchauffement de la planète. Ils sont partis, ils n'ont pas dit comment. Et depuis... le débat continue chaque année. C'était une réunion de l'ONU. Une réunion à Durban, une autre à Doha, la dernière à Varsovie, en décembre dernier. Varsovie, où il y a pas mal, évidemment, de CO2 dégagé par leur centrale thermique. D'ailleurs, les Polonais ont eu le culot d'organiser, pendant la conférence sur le climat à Varsovie en décembre dernier, une conférence sur le charbon. Ça leur a été assez reproché, d'ailleurs, hein, parce que... ça passait pour une provocation. Bon. Et puis, avec une étape finale, entre guillemets, à Paris, l'an prochain, 2015, une grande conférence internationale dont la France a la responsabilité, sans doute en novembre ou décembre de l'année prochaine, pour essayer de signer un traité climatique pour limiter le réchauffement, les émissions de gaz carbonique, etc. etc. Bon. Donc, voilà une des contraintes. La seconde, c'est, je répète que je simplifie les choses, ce sont les ressources. Les ressources disponibles. Alors vous voyez cet individu qui est monté sur un baril de pétrole avec une... c'est symbolique, hein, avec des jumelles, il regarde ce qui se passe. Le pétrole dit conventionnel, 50 ans de réserve, c'est-à-dire de ressources exploitables. Hein. Au rythme actuel de consommation, il y a des discussions, est-ce que c'est 45, est-ce que c'est 50, bon, 50 ans. Hein. Pétrole dit conventionnel, ça exclut les pétroles du style hypothétique qui seraient dans l'Arctique, etc., où il y a tout un débat. Bon. Le gaz naturel, on disait il y a quelques années, moi-même, je ne suis pas expert, hein, 60 ans. Maintenant, on dit plutôt 100 ans en mettant le gaz de schiste, hein, dont on parle beaucoup, probablement 100 ans, avec des réserves de gaz de schiste plus ou moins bien évaluées. Le charbon, 150 ans, il y en a partout. Hein. Alors, il faut l'exploiter, y compris en France, d'ailleurs. Il y en a partout, bon. Alors, avec les inconvénients que ça présente. L'uranium pour les centrales nucléaires, que j'appelle classiques, c'est-à-dire les centrales actuelles, 80 ans, et ça, c'est quand même un problème. Donc il y a des points d'interrogation, et ce d'autant plus que ces réserves, du moins certaines d'entre elles, sont mal réparties géographiquement sur la planète. Hein. Bon, le charbon, il y en a à peu près partout. Du pétrole, il n'y en a pas partout, et il y en a notamment, les réserves importantes sont dans les pays d'une organisation qu'on appelle l'OPEP, en particulier dans les pays du Moyen-Orient, qui sont des zones assez troublées. Et puis, bon, tout ça, ça a une dimension géopolitique, hein, qui est encore actuelle avec la crise en Ukraine, puisque les Européens, en particulier les Allemands, importent de façon relativement importante du gaz naturel de la Russie, 30% pour les Allemands, un peu moins pour nous, qui est en partie véhiculé, si je puis dire, ce gaz naturel par des gazoducs qui traversent l'Ukraine. Et donc, il y a une menace sous-jacente, à mon avis, ils ne le feront pas, mais de la Russie de couper le gaz. Hein. D'où les réactions extrêmement alambiquées, d'ailleurs, des pays européens, notamment de l'Allemagne, hein, dans la crise ukrainienne. Parce que les Russes tiennent le robinet de gaz. C'est pas leur intérêt non plus de couper le gaz. Hein, parce que leur économie dépend beaucoup des exportations. Donc on voit que tout ça, c'est une dimension géopolitique très importante. Bon, je passe. Alors maintenant, je conclue tout ça en disant, mais je vais vite, hein, pour des raisons liées au réchauffement climatique, si on croit que le réchauffement climatique est une menace, je ne suis pas climato-sceptique, je ne suis pas spécialiste du climat, mais je ne suis pas climato-sceptique, et il y en a de moins en moins d'ailleurs. Hein, si on pense qu'il y a menace sur des réserves par épuisement, notamment du pétrole, l'exploitation massive d'énergie carbonée n'est pas durable, n'est pas durable, hein, pour les raisons que l'on a dit. Et ça s'est illustré par cette plaque de rue dont j'ai pris une photo en Italie il y a quelques années, en trichant sur la traduction du mot carboné. En italien, ça ne veut pas dire carbone, ça veut dire charbon. Mais la rue du carbone est devenue une avenue qui va se transformer en une impasse pour ces deux raisons-là. Alors, que faire? Que faire? Pour ça... Les économistes, spécialistes de l'énergie du côté économique plus que du côté scientifique, ils font ce qu'on appelle des scénarios. Ils disent, bon, on va essayer de limiter à 2 degrés de réchauffement de la planète. Décision prise à Copenhague, sans dire comment on fait. Pour ça, il faut diminuer au moins 50% les émissions de CO2 mondiales d'ici 2050. 50% dans le monde d'ici 2050. Un chemin possible est le suivant. Beaucoup d'économistes font ce genre deux scénarios, c'est-à-dire on imagine un chemin vers l'avenir, en particulier d'une organisation qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, dont le siège est à Paris, et qui rassemble tous les pays développés. Et puis il y a des universitaires qui font ça, notamment à Grenoble, hein, peut-être à Poitiers, mais à Grenoble, il y a des équipes universitaires du CNRS, de l'Université Pierre Mendès France aussi d'ailleurs, qui sont les meilleurs d'Europe, hein, comme je ne suis pas grenoblois, je le dis facilement, qui font des scénarios pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ce scénario, qui est un scénario international, qui a été actualisé l'année dernière, en décembre, nous montre le chemin suivant. On part le l'an 2000, on consommait dans la pompe à énergie 10 milliards de tonnes équivalent pétrole, on était à 12,5 hein, en 2012, toujours à 80% de fossiles. On arrive en 2035, la pompe, elle a grandi, ah ouais, on a consommé 15 gigatep, parce qu'il faut bien alimenter en énergie les pays en développement, la Chine, etc. etc. Ça fait, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, 50%. Parce qu'au XXe siècle, pendant le XXe siècle, on a multiplié par 10 la consommation d'énergie, par 10. Là, ça n'est que 50%. Et puis on passe, elle amincit la pompe, parce qu'on passe à 63% d'énergie fossile, donc en à peine 35 ans, parce qu'en 2012 ou 2010, on en était au même point. Donc on fait un effort, c'est une vraie rupture, hein, parce que c'est une transition vers moins d'énergie carbonée utilisée sur la planète. Alors quelles sont les conséquences de ça? Quelles sont les conséquences? C'est un scénario parmi d'autres. Hein. Quelles sont les conséquences? Bon, ne regardons pas les chiffres, mais simplement... la forme des courbes qui donne la contribution des différentes filières énergétiques à la consommation mondiale d'énergie, sachant qu'on s'impose de diminuer les émissions de gaz carbonique. Comme on l'a dit, on passe de 80 à 63% d'énergie fossile. La courbe du haut, c'est en rouge, le pétrole. Le pétrole qui continue à monter jusqu'en 2020, bah, il faut bien alimenter en essence, en gazole, les véhicules de transport. Parce que, je le dirais tout à l'heure, la voiture électrique, ça ne tient pas encore complètement la route, hein, si je puis dire. Bon, pour différentes raisons. Le noir, la courbe en noir qui monte très fort, c'est le charbon. Jusque 2020, il faut alimenter en charbon les centrales polonaises, chinoises, voire allemandes, parce qu'ils substituent un peu de charbon au nucléaire. Bon, et donc, c'est un problème. La courbe ici en sépia, là, qui monte lentement, mais jusqu'en 2030, 2035, c'est le gaz naturel. Parce que le gaz est facile à utiliser. On peut le substituer avantageusement au charbon dans les centrales thermiques parce qu'à calorie égale, le gaz naturel envoie moins de CO2 dans l'atmosphère que le charbon et que le pétrole. Et les Américains, d'ailleurs, substituent de façon importante le gaz naturel au charbon dans les centrales thermiques et les émissions de gaz carbonique des Américains chutent depuis 4 ou 5 ans. Alors que leur niveau de vie a pas, ou leur croissance économique a été peu modifiée. Et puis, alors là, toute la courbe en gris, qui monte très très fort, ce sont les énergies non carbonées. Non carbonées, qui doivent passer de 20%, leur taux actuel, à 37% en 2035, selon ce scénario. Alors, on voit toutes les courbes du bas. Le vert, c'est la biomasse, j'en parlerai un peu. Le jaune, là, qui monte fort, c'est le nucléaire. Est-ce que c'est faisable après Fukushima? Point d'interrogation. Le vert cacadois, là, qui monte encore plus, c'est le solaire et l'éolien. Et puis, le bleu, qui monte pas beaucoup, c'est l'hydraulique. Parce que la plupart des grandes rivières et des grands fleuves dans le monde sont équipés en barrages. Hormis en Afrique centrale, le bassin du Congo, où là, il y a pas mal de possibilités qui pourraient être exploitées, et au Brésil, tout le bassin de l'Amazon. Donc là, et un peu en Chine. Bon. Donc là, l'hydraulique, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer la part du charbon, augmenter les énergies renouvelables, le nucléaire éventuellement, les biocarburants, l'hydraulique, là où on peut. Là où on peut. C'est une conclusion de ce scénario. Il y en a des dizaines d'autres. Ça, c'est un scénario assez volontariste. Pas évident qu'il soit réalisable. La France, maintenant. Pour la France, et je terminerai avec les scénarios-là, le débat en 2013 sur la transition énergétique, dont les conclusions doivent être intégrées dans une loi, a mis en évidence quelques conclusions sur lesquelles il y avait à peu près un accord. À peu près. Diminution de l'énergie primaire consommée en France et finale à peu près au même taux, de 20% entre aujourd'hui, disons, et 2030. Ce qui n'est pas négligeable, 20%. Pour l'instant, on diminue peut-être d'un 0,5% par an, à cause de la crise économique. Bon. Diminuer la part du nucléaire pour produire l'électricité en la faisant passer de 75% à 50% en 2025, décision président de la République. Puis en 2050, là, il n'y a pas unanimité. Diviser par deux la consommation d'énergie en France, entre, disons, aujourd'hui et 2050. Je mets un point d'interrogation, pas évident que ça soit réaliste. Ça ne sera pas dans la loi. La loi va programmer jusqu'en 2025, peut-être 2030. Donc, hors de question qu'on mette dans une loi, voilà ce qui va se passer en 2050, et diviser par deux la consommation d'énergie, alors qu'on prévoit une augmentation de la population, n'est pas forcément réaliste. Alors, différents scénarios ont été proposés, à la fin de l'année dernière, d'ailleurs, pour préparer le projet de loi, en novembre ou décembre, par une organisation qui s'appelle l'ANCRE, qui n'a rien à voir avec la marine. C'est la science nationale pour la coordination de la recherche sur l'énergie, dont font partie les grands organismes de recherche qui travaillent sur l'énergie, le CEA évidemment, l'Institut français du pétrole, le CNRS et la conférence des présidents d'universités qui représentent les universités et les écoles d'ingénieurs. Bon, pour piloter tout ça, la recherche. Alors ils ont fait trois scénarios, je ne vais pas les détailler, ça serait casse-pied, pour l'énergie en France en 2050. Et prévoit une fourchette, si je puis dire, de 27 à 41% de baisse de l'énergie, de consommation d'énergie finale ou primaire en 2050. Donc, ce n'est pas 50%, c'est de 27 à 41%, ce qui est déjà pas mal. Une forte progression de la part des énergies renouvelables dans tous les scénarios, le solaire, l'éolien et la biomasse, dans la production d'électricité, et puis... ces énergies renouvelables contribueraient à 40 ou 50% de la production d'électricité en 2050. On est aujourd'hui à 15% d'électricité par source renouvelable. Ce 15%, c'est 12% d'hydraulique, les barrages, 3% d'éolien et puis un epsilon de solaire. Un epsilon qui croît. Puisque vous allez avoir aussi... des exposés sur le transport, un des scénarios prévoit qu'en 2050, 45% de la mobilité serait électrique, pas la mobilité des piétons, mais des transports terrestres. Transports terrestres, donc automobiles, camions, autobus. 45%, ce qui est énorme, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas des trains, mais on doit être à 1 ou 2%. Bon. Alors maintenant, j'en viens au problème un peu technique. Ces scénarios, qu'ils soient internationaux ou français, ils mettent en évidence des chantiers sur lesquels il faut travailler. Des chantiers clés, scientifiques, techniques, avec des développements industriels, parce qu'il y a des verrous qu'il faut faire sauter, c'est-à-dire des problèmes techniques qu'il faut résoudre. Hein, je vais y venir pour le transport électrique, par exemple, le problème des batteries. Donc là, c'est essentiel. Et il y a, en gros, je simplifie, 4 à 5 chantiers. Les carburants, nouveaux carburants, ce qui veut dire qu'on maintient des moteurs thermiques. Hein, bon. Ou les moteurs, ou des voitures hybrides. Éventuellement l'hydrogène, ça c'est un chantier. Donc les carburants et le rendement des moteurs thermiques où il y a de la marge. Il y a de la marge. Les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, ça c'est un chantier. L'éolien est à peu près au point, il n'y a pas vraiment besoin de faire sauter des verrous. J'en parlerai pas, je parlerai davantage du solaire. La production d'électricité avec le nucléaire, la fission et la fusion, ça c'est un chantier en soi. Le problème du stockage, de la distribution, de la gestion d'électricité. C'est le problème des batteries, je vais en dire quelques mots. Puis un problème dont je ne parlerai pas, non pas qu'il soit pas important, mais qui est surtout économique, c'est le problème du stockage, de la séparation du gaz carbonique. On peut dire, ah bah oui, mais on peut vivre avec des centrales électriques, hein, les limites au charbon, au gaz, etc. Si on sait séparer le gaz carbonique, l'envoyer dans un gazoduc et l'enfouir sous terre. C'est facile à dire. Techniquement, c'est faisable, mais ça coûte très cher. Donc, il y a un problème technico-économique. Hein, tous les rapports, notamment ceux de l'Agence internationale de l'énergie, il y en a encore un cette semaine, parlent de ça. Mais économiquement, c'est un gros problème. Alors, rupture. Non, je termine par ça. La donne énergétique, elle peut être changée par des découvertes scientifiques, des innovations. Ma collègue historienne en aurait sûrement parlé. Au cours de l'histoire, il y a eu des innovations majeures. Au XVIIIe siècle, l'introduction du charbon comme substitut au bois, d'abord en Angleterre, puis après en Europe continentale. Et en même temps, l'introduction de la machine à vapeur a été une vraie rupture. Une vraie rupture. Au plan scientifique, c'est même ce qu'on peut qualifier de changement de paradigme. Pour la première fois, on transformait de la chaleur en travail. Et ça, c'était une nouvelle vision de l'énergie, qu'on a mis près d'un siècle à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, machine à vapeur plus charbon, c'était les débuts de la révolution industrielle, même si la science n'a pas joué un rôle considérable hein, dans la mise au point de la machine à vapeur, dans son perfectionnement, oui. Mais la science, elle peut être à l'origine de ruptures dans le domaine de l'énergie, par des découvertes. Par exemple, 1938, découverte de la fission de l'uranium, ça a ouvert la voie à l'énergie nucléaire. Passant par Hiroshima, 6 ou 45. La mise en évidence de l'effet photovoltaïque dans le silicium, en 1954, au Bell Laboratory aux États-Unis, on connaissait l'effet photovoltaïque, mais pas dans le silicium. Ça a ouvert la voie au solaire photovoltaïque, et je vais y revenir dans un instant. Bon, alors, quelques illustrations, parce que je ne peux pas être complet, le temps passe, de ruptures possibles. Les biocarburants. On maintient les moteurs thermiques, pourquoi pas, hein, ou avoir des voitures hybrides. Au lieu de l'essence, on peut utiliser des biocarburants. Ce n'est pas la peine, vous le savez, on peut utiliser l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool, en le mélangeant à l'essence, jusqu'à 10-15%, sans changer le moteur. Mais bien sûr, vous allez dire, ah ben oui, mais comment on fabrique ces biocarburants? À partir de produits agricoles à finalité alimentaire, comme le maïs, par exemple, qui est là, hein, qui est d'abord un produit alimentaire. Le maïs, c'est de l'amidon. On peut le transformer en sucre par une enzyme. On fait fermenter ça. On obtient de l'alcool. C'est vieux comme Mathusalem. Hein. Bon. Mais ce n'est pas raisonnable d'utiliser les matières premières à finalité agricole, alors que dans les années qui viennent, il y aura des crises alimentaires dans le monde. Il y en a fréquemment en Afrique. Alternative. On n'utilise pas les grains de maïs ou le sucre de la betterave à sucre ou de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, ouais. Mais on utilise l'enveloppe végétale parce que c'est de la cellulose. 50% de la biomasse produite sur Terre, c'est de la cellulose et de l'hémicellulose, qui est un sucre compliqué, un polymère du glucose qu'il faut couper en petits sucres, si je puis dire, avec une enzyme. On obtient du glucose, on fait fermenter le glucose, on obtient de l'alcool. Et on retombe sur le problème précédent, sauf que la matière première, c'est une matière première qui est un déchet végétal. Le rendement n'est pas terrible. Alors que la première méthode, le rendement, il est très bon. Le rendement, il n'est pas terrible. Il y a plusieurs usines prototypes en cours de construction dans le monde. Une en France, dans la Marne, un village, oui, je crois qu'il s'appelle Pomac-le-Bazancourt, près de Reims, où il y a une usine pilote qui est en cours de montage. Y a-t-il une rupture possible? Oui. Ça serait d'utiliser ce qu'on appelle la biologie synthétique, c'est-à-dire, bon, je ralentis un peu, de fabriquer de façon synthétique les génomes, c'est-à-dire l'ensemble de gènes, de bactéries, de levures ou d'algues à partir de morceaux d'ADN, ce qu'on appelle des nucléotides, qu'on raboute les uns aux autres hein, par une technique. Et on substituerait un génome naturel par un génome artificiel synthétique, l'ayant reprogrammé pour qu'il produise avec un bon rendement ce génome dans une cellule, une bactérie, de l'alcool, des enzymes pour dégrader la cellulose, voire de l'alcool, voire des hydrocarbures. Ça, c'est la perspective de la biologie synthétique, la percée, elle est faite 2009-2010. Hein, par une équipe américaine qui, dont le projet est de fabriquer des carburants synthétiques. Bon. Ça, c'est une voie possible. On peut se contenter de modifier, pas faire la synthèse complète du génome, mais de modifier, par exemple, deux gènes d'une bactérie. Comme une bactérie très simple, qu'on appelle Escherichia coli, qui est classique. Et ça a été fait par deux équipes coréennes et publié en octobre de l'an dernier, donc c'est pas vieux. Et la bactérie modifiée produit directement un hydrocarbure, un alcane à chaîne simple. Donc ça, c'est, on voit que ce sont des moyens possibles. On ne va pas produire tous les biocarburants par cette voie-là, mais on peut sans doute produire un quart ou un tiers, personne n'a d'idée, de biocarburants à horizon de 2035. Ça, c'est des voies très importantes. Et là, je signale, il y a tout un débat en ce moment, pas seulement là-dessus, mais sur l'intérêt de ces techniques-là pour faire des médicaments, pour faire des carburants, etc. Dans la revue Nature, la revue britannique Nature, un numéro récent, hein, 8 mai 2014, donc c'est il y a 15 jours, hein, où il y a toute une série d'articles sur ces questions-là qui sont des problèmes majeurs. Majeurs, notamment pour les carburants, mais pas seulement. Bon, donc on voit qu'il y a là une rupture possible. Le solaire, maintenant. Le solaire... il nous envoie le soleil 6000 fois l'énergie, notre énergie quotidienne, donc on n'utilise pratiquement pas l'énergie solaire, sauf pour faire pousser les plantes avec un mauvais rendement d'ailleurs. Bon. Mais on peut utiliser le rayonnement solaire pour faire de l'électricité. C'est l'effet photovoltaïque qui illustre cette photo d'une centrale avec des petites plaquettes de silicium, hein, dans un désert probablement. Qu'est-ce qui se passe? Les photons du rayonnement solaire vont frapper le silicium, qui est un semi-conducteur, éjecter un électron qui va débiter dans un circuit extérieur, on produit un courant électrique. Bon, ça marche depuis 1954. Hein. Le rendement, il est de l'ordre de 20, maximum 24%. Bon, j'ai eu une polémique avec un directeur de chez Total qui, j'avais dit que c'était 20% maximum, ils disent qu'ils ont acheté une centrale, pas une centrale, une usine qui s'appelle SunPower aux États-Unis et qui produit des cellules, j'ai vérifié, c'est vrai, avec un rendement de 24%. Bon, je ferme la parenthèse. Le rendement est limité, non pas parce qu'on s'y prend mal, mais parce que le silicium, il absorbe beaucoup dans le rouge et l'infrarouge et pas le bleu et le vert. Pas qu'un centième, on peut utiliser d'autres semi-conducteurs comme l'arsénure de gallium, le tellurure de cadmium, qui absorbent, eux, dans une autre gamme de fréquences, dans le bleu, dans le vert, on superpose tout ça et on peut avoir des rendements de 40 à 45%. Mais ça coûte très cher. Il faut fabriquer des jonctions, etc. Ça coûte beaucoup plus cher que le silicium. C'est ce qu'ils utilisaient dans les batteries solaires des satellites. Mais là, on ne regarde pas la dépense, on s'en moque. Bon, alors, y a-t-il des percées possibles? Oui. Des nouveaux matériaux, je viens d'en parler, une catégorie de matériaux très récente qu'on appelle les pérovskites, qui sont des alliages, enfin des composés bimétalliques, et qui sont semi-conducteurs. Et là, synthèse très récente, ça date de 2 ans, partant de zéro, si je puis dire, ce n'est pas connu, on passe à 16%. On est à 16%. Donc il y a des possibilités. Possibilités, autrement dit, le silicium n'est pas forcément la réponse à tout. Les matériaux organiques, c'est-à-dire les matières plastiques, des matières plastiques. Là, il y a une équipe suisse à Lausanne, à l'école polytechnique, qui a mis en évidence, il y a déjà une dizaine d'années, qu'on peut utiliser des plastiques semi-conducteurs qui sont dopés. Le rendement n'est pas terrible, 8 à 10 %. Comparé au silicium, ce n'est pas suffisant. Mais le coût du matériau est beaucoup moins élevé. Rien n'interdit de penser qu'on pourrait passer à des rendements supérieurs. Et puis, alors là, ça serait une percée, mais pour l'instant, personne ne peut le dire, des nouveaux phénomènes d'interaction entre la matière et la lumière qui permettraient d'absorber d'un seul coup plusieurs photons et augmenteraient ipso facto le rendement. L'autre possibilité, c'est de faire de la chimie avec le soleil. On n'en parle pas souvent, mais ce sont des techniques qu'il ne faut pas du tout négliger. Là encore, une équipe suisse qui, pour la première fois, il y a 7 ou 8 ans, a fait la manipulation. On met une plaquette de silicium dans de l'eau, donc on va l'éclairer. On met un catalyseur sur la face illuminée, l'autre face, hein, et on fait l'électrolyse de l'eau avec un catalyseur. On dégage de l'hydrogène sur la face qui est opposée à la lumière, de l'oxygène sur la face illuminée. On peut utiliser l'hydrogène comme carburant, directement dans un moteur thermique, ou dans une pile à combustible, ou le recombiner avec le gaz carbonique pour faire un hydrocarbure. Donc ça, ce sont des voies sur lesquelles on travaille. Et la rupture, là, c'est le catalyseur. Il faut trouver des bons catalyseurs. Bon, pas impossible. Alors le nucléaire. Le nucléaire, là, je vais vite. Non pas que je ne veux pas en parler, mais c'est tout un débat. Quel est l'avenir du nucléaire après Fukushima? Les Japonais veulent relancer, d'ailleurs, toutes leurs centrales sont fermées. Et ils veulent en relancer un certain nombre, mais il y a un débat quand même. Sachant que les réserves d'uranium, de toute façon, c'est 80 ans, qu'en France, 75% de l'électricité vient du nucléaire, on va passer à 50%, mais ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a plus d'uranium? Le problème se posera de toute façon. Une voie possible, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des surgénérateurs, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'uranium comme combustible, on prend le plutonium. Dans un réacteur nucléaire, vous avez, par absorption de neutrons par l'uranium non fissile, l'uranium-238, vous fabriquez du plutonium qu'en général on n'utilise pas, sauf mélanger un peu à de l'uranium, ce qu'on faisait en France et à Fukushima d'ailleurs. Bon. Mais avec une charge d'uranium, vous pourriez produire 10 charges de plutonium pour donc 10 réacteurs. Ce n'est pas un miracle, hein, c'est les lois de la chimie nucléaire. Et ces réacteurs, ce qu'on appelle des surgénérateurs, on sait que ça marche, mais il faut quand même que les conditions de sûreté soient draconiennes. Je passe sur les détails. Réponse 2030-2035. Si en 2030-2035, on n'a pas possibilité d'ouvrir cette voie-là, là, la question du nucléaire, de toute façon, devra être posée pour des raisons, je dirais, de combustible. Et puis, oui, une autre possibilité, ça serait, je dirais, la rupture des ruptures, ça serait de nouveaux phénomènes de relations entre la matière et l'énergie pour extraire de l'énergie de la matière ou des noyaux. Il ne faut pas l'exclure. En 1905, lorsqu'Einstein a montré l'équivalence masse-énergie, cette fameuse relation égale mc au carré, personne, il se posait quand même des questions, Einstein, n'a imaginé que ça déboucherait sur l'énergie nucléaire. Bon, je ne sais pas si j'ai encore le temps, je passe sur la fusion peut-être. Hein. J'attends. Comment ? Combien ?
10.
Ah bon. Alors, je parle de la fusion. La fusion, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le contraire de la fission. C'est le contraire de la fission. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend des atomes légers de l'hydrogène, isotopes de l'hydrogène, du deutérium, du tritium. On le porte à 150-200 millions de degrés. On n'est pas à un million de degrés près. Hein. Collision. Les atomes fusionnent, ils ont été évidemment privés de leurs électrons, fusionnent pour donner naissance, si je puis dire, à un atome d'hélium, un neutron qui s'en va avec de l'énergie. Si on fait le bilan de la masse après, avant la fusion, il manque de la masse. Une partie de la masse s'est transformée en énergie. Je dirais Einstein a encore frappé E égale mc au carré. Et donc c'est l'énergie qui fait, de la fusion thermonucléaire, qui fait marcher les étoiles, le soleil, la bombe à hydrogène. On sait faire en laboratoire, mais il faudrait le faire à une grande échelle industrielle. Et ça, c'est l'objet d'un grand programme international dont sont parties prenantes, disons, toutes les grandes puissances mondiales, l'Europe, États-Unis, etc., le programme baptisé ITER, qui, c'est un acronyme qui veut dire International Thermonuclear Experimental Reactor, un réacteur expérimental en cours de construction à Cadarache, en France, sur le site du CEA. Cadarache, c'est près de Manosque, hein, dans les Bouches-du-Rhône. Et avec ce réacteur dont vous voyez la maquette, le rond rouge là qui entoure le petit bonhomme ou la petite bonne femme, je n'ai pas été voir. Bon. Mais ça a l'air d'un bonhomme, je pense. Vous voyez, ça vous donne une image de l'échelle, enfin une idée de l'échelle. La fusion doit se réaliser là dans le corps, le corps, hein, le cœur, pardon. C'est un tore, oui, c'est ça, qui doit faire 15 mètres de diamètre, non, de rayon, et à 150 millions de degrés. Je passe sur les détails. Pas de résultat avant 2030. Je mets deux points d'interrogation. C'est pas évident que ça marche. C'est pas évident que ça marche. Ça coûte cher. C'est pas évident que ça marche. On sait faire hein, sur des petites machines. Mais là, à très grande échelle, il peut y avoir des mécanismes déstabilisateurs, etc. En plus, il faut extraire l'énergie de la machine. Et ça, c'est pas demain la veille qu'on peut le faire. Mais si ça marchait, ça serait une vraie rupture. Parce qu'on n'aurait pas d'énergie gratuite. Hein, faut pas exagérer. Mais une réaction nucléaire avec peu de déchets, il y a quand même des déchets, et puis il faut utiliser un matériau radioactif qui est le tritium. Mais disons, ça serait une vraie rupture, parce que les isotopes de l'hydrogène, on peut les trouver. Dernier point, l'électricité qu'on appelle intelligente. Non pas que l'électricité aujourd'hui soit stupide, mais l'un des défis des énergies renouvelables, ou de l'avenir de l'électricité, c'est de produire de l'électricité, d'une part par des sources comme des centrales nucléaires, des barrages ou des centrales à gaz, qui sont des grandes sources centralisées, si je puis dire, dans des grandes machines à grande puissance, et puis avec des sources plus petites, entre guillemets, fermes solaires, éoliennes, etc., qui sont intermittentes. Quand il n'y a pas de soleil la nuit, le photovoltaïque ne marche pas. Quand il n'y a pas de vent, les turbines, désolé, elles ne tournent pas. Hein. Donc ça, c'est un vrai défi technique. À petite dose aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour les réseaux électriques. Ils acceptent. Mais si c'était 10 à 15% de l'électricité ou 20% produite comme ça, il faudrait des nouveaux réseaux électriques. Parce que, disons que ils disjoncteraient, si vous voulez. Donc, des réseaux électriques intelligents, c'est la traduction des deux mots anglais smart, qui veut dire astucieux, et grid, qui veut dire réseau, qui est un enjeu important. Puis en plus, ça signifie qu'on gérerait autrement l'électricité dans 20 ou 30 ans, avec des producteurs qui seraient en même temps consommateurs. Alors qu'EDF, aujourd'hui, ne consomme pas son courant, sauf pour éclairer ses bureaux, etc. Bon, hein, mais là, les particuliers, c'est déjà le cas aujourd'hui. Bon, quand ils n'utilisent pas le courant produit par les panneaux solaires sur leur toit, ils l'envoient sur le réseau à EDF, qui l'achète un tarif intéressant et qui n'est pas sans problème d'ailleurs. Bon. Donc, il faut mettre en point des capteurs, des lignes électriques adaptées. C'est des problèmes techniques, hein, ce n'est pas scientifique, mais c'est difficile. Des moyens de stockage. Des compteurs astucieux. Dans le département voisin de l'Indre-et-Loire, il y a une expérimentation il y a 2 ou 3 ans de compteurs dits intelligents baptisés Linky qui vont être généralisés. L'idée d'ETF, c'était pas de piloter la consommation locale, mais de faire en sorte qu'il n'envoie pas les agents d'ETF pour relever le compteur chez les particuliers. Hein. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un de l'ETF, hein, il m'a dit, bon, c'est ça le sujet, il dit, alors ça va nous priver de travail, ça, bon, bref. L'idée de F n'était pas de faire des économies à ses clients, ils s'en fichent. Bon. Mais c'est un vrai problème quand même. C'est un vrai problème. Alors maintenant, je termine vraiment. Il y a un point clé qui est le stockage de l'électricité, qui est essentiel pour les énergies renouvelables, parce que l'électricité qu'on produit avec des éoliennes, par exemple, la nuit, et qu'on n'utilise pas, il faut soit l'envoyer sur le réseau, mais si personne ne consomme, il faut essayer de la stocker, ce qui est un vrai problème. Qui est un vrai problème qui est mal résolu. Et c'est un problème clé pour les transports, hein, pour les batteries des véhicules électriques. Ce qui illustre ces deux photos-là, de deux voitures électriques séparées par un siècle de distance. La première, celle du haut, c'est 1895, une voiture belge qui s'appelait la Jamais Contente. Parce qu'il fallait qu'elle recharge tout le temps ses batteries, elle doit avoir 30 km d'autonomie. Mais c'est la première voiture qui a franchi les 100 km sur route, en 1899. Si bien qu'à l'époque, beaucoup de gens, experts, ont dit, hein, vous parliez d'experts, l'avenir de la voiture, c'est la voiture électrique. On s'est trompé au moins un siècle. Bon. La voiture du bas, c'est une voiture américaine qui s'appelle enfin le producteur s'appelle Tesla. Je dirais c'est un nom d'emprunt. C'est-à-dire que Tesla, c'était un grand inventeur, je ne sais pas s'il était serbe ou croate, hein, du début du XXe siècle, qui a inventé le courant triphasé, les transformateurs, etc. C'était un rival d'Edison. Bon. Et donc, ce n'est pas General Motors ou Ford, mais un entrepreneur américain a pris le nom de Tesla pour créer sa firme automobile. Et donc, la voiture du bas, elle a une autonomie de 400 km à peu près, ce qui est beaucoup. Je n'ai pas été voir la voiture, c'est une voiture de sport, mais je suis sûr que dans le coffre, il y a beaucoup de place pour mettre des bagages. Bon. Néanmoins, 400 km d'autonomie. Ils fabriquent aujourd'hui, ils sont en Californie, 15 à 20 000 voitures par an, pas seulement des voitures de sport, mais qu'on appelle des berlines, hein, équivalent des Mégane, je ne sais pas quoi. Progrès indéniable, hein, mais lent en un siècle, lent. Hein. C'est une batterie au lithium, batterie ici au plomb, en haut au plomb. Y a-t-il des ruptures possibles? Et là, il faut faire des progrès pour les voitures électriques, mais aussi pour le stockage d'électricité produite par les sources renouvelables. Les spécialistes disent, oui, il y a des progrès possibles, mais des ruptures, c'est-à-dire des nouvelles idées, pas vraiment, pour les batteries, hein, je parle, pour les batteries. Donc, c'est quand même un sujet de préoccupation. Bon, il y a un certain nombre de questions clés. Je vais vite, là, on pourra prendre des questions. Le prix de l'énergie. Quel prix pour l'énergie d'ici 2030? Tout le monde s'attend à une augmentation du prix de l'électricité du kilowattheure. Est-ce qu'il y a des nouvelles ressources possibles, hein, de quoi qu'on dise, des problèmes d'énergie fossile, des nouvelles ressources de gaz et de pétrole? Ah oui, le pétrole et le gaz de schiste, hein, qui posent des problèmes, mais qui donnent aux Américains pratiquement une autonomie énergétique. Ce qu'on appelle les hydrates de méthane. Les hydrates de méthane, c'est des molécules de méthane piégées dans un cristal de glace au fond de la mer. Les Japonais ont fait une percée, c'est le cas de le dire, puisque c'est un forage, l'année dernière, c'est en général au fond des océans. Ils ont réussi à faire un forage par 1000 mètres de fond, profondeur d'eau, hein, et extraire le méthane d'un hydrate de méthane. Ils ont besoin d'énergie, hein, les Japonais. Bon. Donc, ils sont prêts à faire feu de tout bois. Je conclue maintenant. La transition énergétique, elle est inévitable, pour les raisons que j'ai dites, hein, je ne suis pas le seul, mais elle va prendre probablement beaucoup plus de temps qu'on le dit. 30-40 ans minimum, parce que c'est des techniques qui sont longues à mettre au point, il y a des investissements importants, il y a nécessité d'un débat pour faire des choix, le débat de l'an dernier en France n'est pas mauvais de ce point de vue. Ben, l'énergie de demain, c'est probablement... Il faut l'envisager avec pragmatisme, c'est-à-dire en faisant, si je puis dire, feu de tout bois, y compris du bois, en utilisant le bois qui est une ressource non négligeable. Hein. En France, c'est aujourd'hui, on a une consommation de 156 millions de tonnes équivalent pétrole, 10 millions de tonnes équivalent pétrole en bois. Ce n'est pas négligeable, hein, avec des forêts très mal exploitées en France. Bon. Donc il faut utiliser du bois, des fossiles, un petit peu, des biocarburants, de la biomasse, hein, c'est notamment le bois, des énergies renouvelables, de nucléaire, si on admet les risques inhérents au nucléaire. Mais il faut réfléchir à tout ça, ce qu'on appelle faire de la prospective, c'est-à-dire voir quels sont les verrous techniques à faire sauter, et ça on ne le fait pas souvent, quelles sont les ruptures possibles, les bons paris scientifiques à faire, hein, la biologie me paraît être un bon pari à faire, et on ne le fait probablement pas assez en France. Et puis là, je plaide pour mon ancienne paroisse, hein, si je puis dire. Il faut préparer l'avenir et les ruptures bah, par la recherche. Hein. Après 2030, qu'est-ce qui se passera? Et ça, c'est la recherche qui peut nous dire. Bon, j'arrête là. Hein. Je vous remercie pour votre attention. J'ai un blog sur l'énergie que vous pouvez consulter où j'aborde ce genre de questions et même celles qui ont une dimension politique. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur Papon. Y a-t-il des questions? Ah, au fond. Donc, j'arrive.
Merci. Bonjour et merci pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez revenir, quand vous parlez du nombre d'années qui nous reste pour chaque type d'énergie en ressources, c'est calculé par rapport à la consommation énergétique actuelle ou la consommation énergétique projetée dans le coup sur le temps qu'on a devant nous? Parce que quand on entend qu'aujourd'hui le seul moteur apparent de l'économie c'est la croissance et qu'avec 3% de croissance, si je ne me trompe pas, on met environ 20 ans pour multiplier une économie par deux et que pour l'instant l'économie elle est complètement corrélée à l'utilisation de ressources. Si on continue à se battre pour la croissance absolument en tant que seul fer de lance, je ne vois pas comment on va réduire nos consommations.
Alors, les ressources sont... les réserves, c'est-à-dire les ressources exploitables, sont évaluées sur la base de données géologiques et pas en fonction de la consommation. Hein. Mettons le pétrole, on dit 50 ans à peu près, ça veut dire pour les gisements qui sont déjà en exploitation, en fonction de la géométrie du gisement, etc. Est-ce qu'on peut exploiter 30 ou 40% de son contenu, etc., etc. Ce sont, autrement dit, des données géologiques sur les ressources, c'est-à-dire les gisements qui sont déjà en exploitation. Et puis, il y a des gisements qui ne sont pas en exploitation, qu'aujourd'hui, il serait trop coûteux d'exploiter, qui seraient peut-être, dans 10 ou 15 ans, si le cours du pétrole augmentait, exploitables. Donc, ce sont uniquement sur les bases techniques. Il y a polémique là-dessus, parce que ces estimations sont faites à partir de données géologiques que donnent les compagnies qui exploitent ou les États. Et la plupart de ces estimations sont celles des États contestées ou contestables, à part probablement les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, qui ont des équipes de géologues étatiques, si je puis dire, ou nationales, fiables. Il y a une polémique là-dessus, sur le pétrole en particulier, où, je ne suis pas expert, hein, mais où la plupart des gens qui connaissent la question disent « les pays de l'OPEP ont triché ». Ils surestiment leurs ressources parce que c'est un moyen aussi d'avoir des quotas. Hein. Ils se distribuent des quotas d'exploitation et ils ont triché probablement en surestimant de 300 milliards de barils leurs ressources au Moyen-Orient. Donc il y a là-dessus, des points d'interrogation. Idem pour le gaz, hein, je veux dire, sauf qu'il y a des inconnus sur le gaz de schiste. Hein. Idem pour l'uranium, idem sur le charbon. Ce n'est pas en fonction de la consommation. Alors on dit 50 ans, évidemment, de pétrole, en fonction de ce que l'on estime que la consommation sera, en fonction de la croissance économique de l'Europe, de la Chine, de l'Afrique, etc. Hein, au rythme actuel, on doit consommer... je pense, 5 milliards ou 4 milliards de tonnes de pétrole chaque année, on dit, bah, on continue comme ça. Mais rien ne prouve qu'effectivement, on va continuer. Et si on continue comme ça, ça fait 50 ans. Voilà. Mais c'est géologique. Géologique avec des contestations, surtout pour le pétrole.
Bonjour. Quand vous parliez d'énergie solaire, vous n'avez pas parlé de l'énergie thermique, alors qu'elle a un très bon rendement. Bon, après, ça ne produit pas de l'électricité, mais on a besoin de chaleur pour nous chauffer l'hiver et d'eau chaude. Ça, c'est pourtant un bon moyen, avec un très bon rendement de 90%, d'économiser de l'électricité.
Vous avez raison, j'ai fait une impasse volontaire sur l'énergie solaire thermique. Bon, d'abord, je n'ai pas de temps, et ensuite, il n'y a pas forcément des VO à faire sauter. Il y a deux types d'énergie solaire thermique. La première, la plus simple, vous faites chauffer de l'eau chaude, hein, avec un capteur solaire sur votre toit. Ça, c'est simple, ça marche bien. Pour des raisons difficilement explicables, ce n'est pas développé en France, très peu développé en France, alors que dans le midi de la France, il y a quand même du soleil, que je sache. Bon, et ça, ce n'est pas développé. Probablement parce que les incitations fiscales, etc., ne sont pas suffisantes. Vous allez dans la plupart des pays d'Europe, y compris des pays comme l'Allemagne ou l'Europe du Nord, vous avez des chauffe-eau solaires, pas pour vous chauffer, pour prendre de l'eau chaude, pour vous laver. Bon, hein. Ça, c'est... Mais techniquement, ça marche. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches là-dessus. Deuxième possibilité importante, c'est d'utiliser le rayonnement solaire pour faire de l'électricité en chauffant. Vous envoyez, je simplifie les choses, par un jeu de miroir, le soleil sur une tour, vous faites bouillir de l'eau, hein, pour simplifier les choses, utiliser la vapeur dans une turbine avec un alternateur pour du courant électrique. Il faut évidemment synchroniser les miroirs avec le soleil, sinon vous avez du soleil qu'un quart d'heure par jour au sommet de votre tour. Bon. Ça, c'est une voie possible. Une voie possible, mais il faut quand même beaucoup de soleil. En France, il y a une expérimentation dans les années 70-80, avec le CNRS d'ailleurs, près de Perpignan, avec EDF. Une fois la tour construite, EDF a mis la clé sous le paillasson, on dit nous, ça ne nous intéresse plus, terminé. Bon, et maintenant on y revient, parce que c'est effectivement un moyen, notamment pour les pays en développement, les pays africains, où il y a du soleil 8 à 10 heures par jour, avec des bonnes conditions d'ensoleillement, y compris dans le midi de la France d'ailleurs. Les Américains misent beaucoup sur ce solaire qu'on appelle la concentration, parce que vous concentrez la lumière solaire sur une tour ou autre chose, hein, notamment en Californie, où ils ont pas mal de soleil, dans l'Arizona, etc. Ils misent tout autant là-dessus que sur le solaire photovoltaïque. Mais la condition, c'est qu'il faut avoir beaucoup de soleil. En France, c'est tout juste rentable, peut-être dans les départements méditerranéens. Ouais. Mais raison, c'est important. Et le solaire thermique pour faire de l'eau sanitaire, c'est ridicule qu'on ne le fasse pas en France.
Oui, parce qu'en fait, je voulais dire qu'aussi une des choses importantes du développement durable, c'est le retour énergétique. Et c'est vrai que oui, les panneaux thermiques ont un très bon retour énergétique, oui, oui. Alors que certains panneaux photovoltaïques, moins. Voilà.
Moins. J'ai vu. Il y a des questions devant.
Oui, c'est simplement un point sur le solaire pour fabriquer de l'eau chaude. Ce qui est frappant, effectivement, parce que bon, c'est une méthode basique, hein, il n'y a pas besoin là, d'innovation. Dans la plupart des pays méditerranéens, mais aussi en Bavière, par exemple, sur beaucoup de maisons, on trouve des chevaux solaires. Ouais. Il se trouve que très souvent, je vais dans la région de Carcassonne, entre Carcassonne et Montpellier, Nîmes, on n'en voit pas. On ne voit pas de... Alors, je ne sais pas ce que ça représente dans le bilan... énergétique de la France, mais il est évident que l'eau chaude, c'est tout de même assez important pour le chauffage dans certaines périodes, pour avoir d'eau chaude, etc. Et là, me semble-t-il, il y aurait des efforts particuliers à faire, parce que bon, les techniques, c'est de la chaudronnerie, hein, c'est pas très compliqué, la ressource existe, et on n'est pas du tout embêté par les problèmes de branchement sur un réseau et d'équilibrage sur le réseau électrique, puisqu'on produit directement de la chaleur. C'est une remarque que je fais et que j'oppose, par exemple, à ce qui est dépensé pour un projet comme ITER. Là, on est à l'autre bout, en quelque sorte, des nécessités ou des contraintes technologiques, parce qu'on ne sait pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher, mais vous devez connaître la boutade des physiciens nucléaires américains. Ah oui, la fusion nucléaire, c'est une énergie d'avenir qu'il restera.
Oui, destiné à rester.
Et donc, voyez, je pense que là, il y a un problème de choix. Ce n'est pas un choix entre ITER et les chevaux solaires, évidemment, mais un problème d'équilibre d'une politique sérieuse, consciente des enjeux. Et là, de ce point de vue, il me semble qu'en France, ce n'est pas très brillant, disons, les capacités simplement d'innovation politique, je dis. Voilà.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a eu un excellent rapport de la Cour des comptes qui est passé inaperçu l'été 2013, sur les aides d'État aux différents systèmes énergétiques pour éviter d'envoyer du CO2, etc. etc. Bon. Et ce qui est le plus efficace pour faire des économies d'énergie et donc limiter les émissions de CO2, et qui n'est pas forcément le mieux soutenu par des incitations fiscales, ce sont les doubles vitrages, des maisons, les chaudières à condensation, le solaire thermique Et puis après, vous avez l'éolien et le solaire en dernier, et qui est le plus subventionné. Alors, il faut bien subventionner pour aider les énergies à percer. Hein. Il n'y a pas de miracle. Hein. L'énergie nucléaire, on a dépensé des dizaines de milliards d'euros pour des raisons notamment militaires, pour mettre au point le nucléaire. Hein. C'est clair que le soleil et les autres, si on ne les sont pas financés et aidés, ne perceront pas. Mais il y a des choses simples à faire où on a les techniques et qu'on n'utilise pas. Notamment pour tout le bâtiment, l'isolement thermique, double vitrage, chaudière à condensation pour le chauffage, etc., qui sont plus économiques et qui ne sont pas aidés. Et le solaire thermique pour faire de l'eau sanitaire, c'est pareil. Plus de questions ? Ah, toujours là, toujours. Oui, on peut discuter en aparté, hein, je reste la matinée. Donc.
Oui, parce que surtout que ça, c'est pas trop le sujet. Enfin, vous avez parlé de rupture, mais il y a aussi une rupture sociétale à faire. Mais bon, ça s'éloigne un peu de votre domaine.
Si, ça fait partie du sujet. La transition, c'est pour ça aussi que je dis que la transition énergétique durera au minimum 30, 40, 50 ans. Je ne suis pas capable, je ne prendrai pas un pari, ou alors à très long terme, comme ça, je ne saurais pas quel résultat. Bon. Mais non seulement parce qu'il y a des techniques qu'il faut mettre au point, mais les modes de vie doivent changer. Les modes de vie, vous ne changez pas comme ça des modes de vie en un tournement. Il faut une génération pour s'habituer à changer de moyens de transport, utiliser davantage les transports publics quand ils existent. Bon, d'accord. Mais ça prend énormément de temps. Énormément de temps.
Oui, on le voit avec le recyclage, on sensibilise au recyclage.
Le recyclage, je n'ai pas parlé du recyclage, où là aussi il y a un problème pour les politiques énergétiques. Parce que si on fait de l'énergie solaire avec des cellules solaires, bon, il faut utiliser pas mal de métaux, en particulier, ou des éoliennes, les aimants des turbines éoliennes, comme des voitures hybrides. Il y a un certain nombre de métaux qu'on appelle des terres rares. Comme le dysprosium, par exemple, qui est une terre rare, qui est utilisée massivement dans les aimants des turbines, des éoliennes, et d'ailleurs aussi les aimants des moteurs électriques d'une voiture hybride. Et le dysprosium est un métal rare, entre guillemets, mais si c'est massivement utilisé, il faudra le recycler. Donc, ça, c'est un sujet dont je n'ai pas parlé. Il y a toute une chimie du recyclage qui est importante à faire, pour les terres rares, éventuellement le lithium. Pour l'instant, il y en a pas mal, du lithium. Mais s'il y avait des millions de voitures avec des batteries au lithium, il y aurait un problème. Le platine des dépôts catalytiques, évidemment. Le platine des piles à combustible dont je n'ai pas parlé. L'Afrique du Sud en produit 60 à 70%, avec pas mal de problèmes sociaux, d'ailleurs, dans les mines. Si le platine est épuisé, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un sujet. Pour plaider... J'en parle à l'aise, je suis physicien, mais je fais un plaidoyer pour la biologie, je fais un plaidoyer aussi pour la chimie, qui est souvent négligée comme discipline et qui est une discipline clé pour beaucoup de problèmes de l'énergie. Hein. Recyclage, je viens d'en parler, les problèmes de catalyse et de chimie ou de biochimie pour les biocarburants, ce sont des sujets majeurs et sur lesquels la France a des graves faiblesses.
Il y a aussi un problème dont vous avez parlé, c'est ce qu'on appelait avant le rapport Nord-Sud. Ça veut dire, est-ce qu'on peut demander à des pays émergents qui, justement, ont besoin de leurs voitures, etc., de payer pour les pays qui vont surconsommer? C'est le rapport entre les États-Unis et la Chine et l'Inde.
Ça c'est... Bon, j'ai simplifié le problème de la transition énergétique en disant qu'il y a deux problèmes, le climat et les ressources minières, mais il y a aussi une autre dimension qui est effectivement le problème des pays émergents qui, eux, ont besoin d'énergie. Moi, je vais de temps en temps en Afrique, quand je parle des spéculations qu'on a en Europe sur le progrès technique, etc. Je dis, mais vous êtes bien gentils, vous avez l'électricité, nous, on n'a même pas l'électricité. Dans des grandes villes, mettons la capitale du Cameroun, Yaoundé, où je vais de temps en temps, il y a des coupures d'électricité en permanence. Dans un pays qui a un peu de pétrole d'ailleurs et un peu de gaz. Il y a quand même 1,3 milliard d'habitants de la planète qui n'ont pas l'électricité. L'électricité, ils veulent la produire. Comme j'ai dit, en Afrique, il y a des possibilités avec des barrages, mais quand on leur dit « Ah, mais le charbon, ça pollue », d'accord, mais nous, on veut l'électricité. Ça, c'est une dimension qu'on oublie, et qu'une grande partie des problèmes énergétiques de la planète, leur solution ne dépend pas uniquement de la bonne volonté des pays occidentaux et européens en particulier. Il ne faut pas l'oublier.
Merci beaucoup, Monsieur Papon. Merci. On va faire une pause donc jusqu'à 11h moins le quart. Merci. 10h45, vous pouvez laisser vos affaires dans la salle. On va la fermer, la salle.